RFI. Grand reportage.
Où héberger les demandeurs d'asile dans un pays qui traverse une crise du logement sans précédent ? Aux Pays-Bas, faute de place durant l'été, dans le seul centre d'enregistrement, 700 personnes ont dû dormir à l'extérieur de la structure. À même le sol, un nourrisson est décédé. Pour répondre à l'urgence, le gouvernement a affrété en septembre 2 bateaux de croisière pour une durée de 6 mois, en attendant qu'une solution plus pérenne soit trouvée. Aux Pays-Bas, les migrants restent à quai. C'est un grand reportage de Nicolas Feldman.
C'est un géant qui occupe tout l'horizon. On le repère au loin sur l'autoroute qui mène à la ville de Velsen. Le Silja Europa, l'un des ferries les plus grands du monde, 200 mètres de long, plus de 50 mètres de haut, et depuis le 24 septembre, un gigantesque bateau devenu le refuge pour un millier de demandeurs d'asile.
Okay.
C'est par l'arrière du ferry que nous montons à bord, le long d'une vaste rampe métallique, d'habitude réservée aux voitures et aux camions. Mais à la place, aujourd'hui, ce sont des dizaines de personnes, des hommes en majorité, qui attendent là que des agents de sécurité contrôlent leur identité.
Vous avez des gens qui n'ont que des sacs plastiques avec quelques affaires, d'autres de grandes valises. C'est très différent en fonction des personnes.
La personne qui nous accueille s'appelle Anneke Niele. Des lunettes carrées, les cheveux courts. C'est elle qui est en charge de la logistique à bord pour le COA, l'agence du gouvernement néerlandais pour les réfugiés.
Vous avez vu la file d'attente à l'entrée du bateau. Ces personnes doivent être enregistrées par nos services avant d'être emmenées dans leur cabine. Ici, la majorité des personnes à bord sont dans l'attente d'une réponse à leur demande d'asile. Il y a des Syriens, des Jordaniens. Vous avez aussi des gens qui viennent de Turquie, d'Afrique. Tous arrivent de pays en guerre ou de régions qui connaissent des problèmes de famine. Dans la majorité, ce sont des hommes seuls. Mais on accueille aussi des familles, des enfants, des femmes seules et des personnes LGBTI+.
Pour regagner les couloirs du ferry, il faut prendre un ascenseur. Au 8e étage, la porte s'ouvre sur une vaste entrée. De jeunes hommes errent sur une moquette bleue. Ici, les activités sont limitées.
Ce n'est pas vraiment un navire de croisière, c'est un ferry. Et ça fait une grosse différence. Si vous jetez un œil aux cabines, elles sont très basiques. Ce n'est pas une croisière de luxe ici. Nous avons fermé la piscine, nous avons fermé le casino, nous avons fermé tout ce qui pourrait faire penser au luxe. Parce que nous ne voulons pas que les Néerlandais aient l'impression que ces personnes ici sont en croisière.
Dans l'un des salons luxueux, reconvertis en une pièce de vie sommaire, deux garçons enfoncés dans des banquettes pianotent sur leur téléphone. Fadi et Ahmad lèvent les yeux à la vue du micro. Tous deux sont Syriens et veulent témoigner de leur arrivée sur le bateau.
Ici, vous avez des Syriens, des Turcs. On a tous dû fuir la guerre pour trouver refuge dans un pays sûr, dans un endroit pour vivre en paix. Pour cela, on remercie le gouvernement néerlandais, car grâce à Dieu, on est heureux ici. Mais c'est vrai que certaines choses manquent sur ce bateau. Nous n'avons, par exemple, pas assez de vêtements.
Moi aussi j'aimerais parler. Rien ne va sur ce bateau, rien du tout. La nourriture n'est pas bonne, jamais nous n'avons été comme ça. Le matin, le midi, le soir, on nous sert la même nourriture. On se sent comme en prison ici.
Bien sûr, c'est évident, mais on sait aussi que les Pays-Bas traversent une crise énorme. Ils ont des procédures pour les demandes d'asile, on a déposé la nôtre et maintenant on espère pouvoir l'avoir rapidement. Ce n'est pas facile, mais on doit s'entraider. Moi, je suis Syrien. Je suis d'abord parti en Turquie et je suis arrivé ensuite aux Pays-Bas, à Terapel. C'est là que se trouve le centre d'accueil pour les réfugiés dans le nord des Pays-Bas. Je suis arrivé là-bas le 7 juin dernier. Là-bas, c'était terrible. J'ai dormi dehors, parfois sous la pluie. Il y avait des tentes, mais on était trop nombreux. Si certains dormaient à l'abri des tentes, d'autres n'avaient pas le choix et devaient rester à l'extérieur. C'était surpeuplé.
Cet état des lieux, Anneke Niele ne le découvre pas. Depuis la mi-septembre, elle entend les mêmes critiques de la part de ses passagers, mais elle se défend. Face à cette crise inédite, les autorités néerlandaises ont dû s'adapter au plus vite.
Cela ne fait que quelques semaines que nous sommes sur ce bateau et beaucoup d'employés de l'agence pour les réfugiés sont nouveaux. Ils n'ont pas encore d'expérience, il faut les former, qu'ils apprennent. Mais vous imaginez bien qu'accueillir du jour au lendemain 1 millier de personnes sur un bateau, ce n'est pas une petite opération. Le problème est plus large. Aux Pays-Bas, on s'est retrouvés ces derniers mois d'un coup avec beaucoup plus de réfugiés que prévu. On a beau essayer de planifier encore et encore, si vous avez autant de gens qui arrivent d'un coup, on n'a pas le choix, on est obligé d'improviser encore et encore.
Pour comprendre comment les Pays-Bas en sont arrivés à devoir loger des migrants sur des bateaux de croisière, il faut remonter en arrière, à l'été 2022. Euronews, le 26 août 2022.
Dans ce centre de réfugiés, un bébé de 3 mois est mort cette semaine. La cause du décès n'est pas encore connue, mais l'événement a marqué les esprits. Ici, chaque nuit, 700 réfugiés dorment à même le sol dans l'attente d'être enregistrés par le Centre national d'inscription des demandeurs d'asile.
Je suis resté 3 jours. Il faisait tellement froid. La nuit dernière, le vent soufflait fort. On n'a pas pu dormir après 3 heures du matin. Nous ne sommes pas en sécurité à l'extérieur du centre. Mais nous n'avons pas la permission d'entrer à l'intérieur.
Manque de médicaments, de nourriture. Les conditions de vie sont inhumaines, selon Médecins Sans Frontières qui intervient d'urgence pour la première fois aux Pays-Bas.
À Terapeul, la mort d'un nourrisson au mois d'août a choqué l'opinion publique néerlandaise et mis en lumière le manque de place pour les demandeurs d'asile. Saskia Bonjour est politologue à l'Université d'Amsterdam. Elle est spécialiste des politiques migratoires.
Pour cette année, il y a plus de demandeurs d'asile qu'avant, mais pas tellement plus que ça. En fait, cette année, c'était vers les 40 000 demandeurs d'asile, ce qui est beaucoup, hein, mais moins par exemple qu'en 2015. Donc il y a une montée du nombre de demandeurs d'asile qui est en partie un rattrapage des personnes qui n'ont pas pu venir pendant la crise de Covid à cause des difficultés de voyager. Et le nombre de places disponibles dans les centres d'accueil cette année, c'est un peu plus de 44 000. Et ça ne suffit pas en fait. Cet été, clairement, ça ne suffisait pas. Là, en fait, ce qui se passe, c'est plusieurs choses en même temps qui ne vont pas. Donc d'abord, il y a effectivement cette question de la politique de yo-yo. Où le financement de la réception aux Pays-Bas et en partie aussi de l'autorité qui décide sur les demandes d'asile, le financement de ces deux instituts, il dépend du nombre de demandeurs d'asile de cette année. Donc si le nombre de demandeurs d'asile est réduit, le financement est réduit. Ce qui fait que les centres d'accueil, ils doivent fermer, ils doivent licencier le personnel. Et donc du coup, après, quand le nombre remonte, il faut rétablir la capacité d'avant, la capacité d'accueil, la capacité de décision. Et ça, ça prend du temps et c'est très compliqué. Ça coûte beaucoup d'argent aussi. Donc en fait, ça, on n'arrive pas à avoir une capacité d'accueil stable qui permet à gérer le nombre de demandeurs d'asile qui, par sa nature, change beaucoup d'une année à l'autre. L'autre partie du problème, c'est que le IND, ça ressemble un petit peu à l'OFPRA en France, ils n'ont pas assez de personnel. Donc, ils ont un nombre de décisions en retard, disons, en attente, qui augmente énormément sur les dernières 5-6 années. Et donc, plus le gouvernement néerlandais prend longtemps à prendre la décision sur la demande d'asile, plus longtemps les gens doivent rester dans les centres d'accueil. Et le troisième facteur, c'est qu'on a une grosse pénurie de logements aux Pays-Bas. Donc il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes dans les centres d'accueil qui ont déjà reçu une décision positive, qui ont donc le droit de rester aux Pays-Bas, mais qui ne peuvent pas sortir des centres d'accueil parce qu'il n'y a pas de logement pour eux.
répondre à cette crise et trouver en urgence des places, le gouvernement néerlandais a donc fait appel cet été aux municipalités. Deux bateaux de croisière ont été affrétés, chacun pour accueillir à son bord un millier de demandeurs d'asile. Les communes d'Amsterdam et de Velsen se sont portées volontaires. À Velsen, petite commune de 5500 habitants sur les bords de la mer du Nord, l'annonce de l'arrivée de ces demandeurs d'asile cet été a soulevé l'opposition d'une partie de la population. Le navire s'est installé sur les quais du Grand Canal, à quelques kilomètres du centre-ville. Mais dans cette petite commune faite de pavillons aux briques rouges, Monique, une habitante, ne décolère pas.
En Facebook, c'est tout.
C'est sur Facebook que j'ai entendu parler de l'arrivée de bateaux chez nous. Ça m'a mis un peu en colère, donc je suis allée manifester. On était 200 à 300 personnes. Ce qui nous énerve, c'est qu'à aucun moment, la mairie nous a prévenus de l'arrivée de ce bateau. Alors qu'ils le savaient dès le début, ils auraient pu nous consulter. À Velsen Nord, nous sommes 5000 habitants. Et là, on se retrouve avec un millier de migrants en plus. C'est beaucoup trop pour une petite ville comme la nôtre. Mais bon, c'est ainsi. Alors maintenant, on attend et on verra bien. De toute façon, comme partout, il y a des gens bien et d'autres qui le sont moins.
Mais à Velsen, il y a aussi ceux qui manifestent leur soutien à l'arrivée de ces demandeurs d'asile. Devant le supermarché, Leslie sort les bras chargés de courses. Elle est originaire d'Amsterdam mais habite juste à côté. Et elle veut désormais consacrer son temps à l'accompagnement de ces migrants.
I got a letter. And they asked for people who wanted to be in a group, you know, from people who are from here.
J'ai reçu une lettre chez moi. Ils cherchaient des habitants qui aimeraient se retrouver au sein d'un groupe pour parler de comment aider ces gens et les locaux à avoir de bons rapports entre eux. La mairie a choisi 15 personnes et je vais aller sur ce bateau. Je vais regarder, poser des questions et voir comment je peux aider à ma façon.
Because I've got an atelier around the corner, and I used to give art.
J'ai un atelier juste là, au coin de la rue, et à un moment, je donnais des cours d'art à des enfants atteints d'autisme. Je me disais que ça pourrait être bien pour ces migrants qui arrivent à Velsen de les initier à l'art, les aider et les accompagner à créer, parce que tout ça implique d'aller à leur rencontre, d'apprendre à les connaître. Moi, je suis très fière de ma commune. Mais c'est vrai qu'il y a des oppositions ici. C'est un de mes collègues qui m'en a parlé et lui était tout à fait contre cet accueil.
Look what the possibilities are. Yeah, I'm really proud. Well, I heard it from some colleagues and the person who told me was very much against it.
Dès les premières oppositions dans sa commune, le maire de Velsen est allé à la rencontre des habitants. Franck Dallès nous reçoit dans son bureau de l'hôtel de ville et il défend sa position.
Je comprends très bien les préoccupations de la population. Et dès l'arrivée de ce bateau, nous avons dû faire face à une série de problèmes pratiques. Les gens nous ont dit, nous n'avons qu'un seul médecin à Velsen Nord pour 5500 habitants. Et d'un coup, un millier de personnes en plus débarquent. Comment est-ce que notre médecin va s'en sortir avec autant de monde? Ensuite, ils nous ont dit, nous n'avons qu'une seule école. Si d'autres enfants y sont scolarisés, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça? Même chose pour assurer la sécurité dans la ville. Avec mon équipe, nous avons donc répertorié toutes les inquiétudes des habitants. Et autant que je sache, chacune a trouvé une réponse. Pour ce qui est du médecin, tous les soins sont pris en charge à bord du bateau. Aucun réfugié ne va être amené à consulter le médecin de Velsen Nord. Pour ce qui est des enfants, tous ceux qui se trouvent sur ce bateau vont être scolarisés dans une école d'une autre ville qui a assez de place pour les accueillir. Enfin, pour ce qui est des questions de sécurité, j'ai négocié avec le gouvernement et avec la police et nous avons obtenu des renforts aussi longtemps que ce bateau restera, c'est-à-dire pour une durée de 6 mois. Aujourd'hui, nous avons un contrat avec le gouvernement néerlandais de 6 mois. Ce bateau est donc autorisé à rester dans notre ville jusqu'au 1er mars.
Après le 1er mars, est-ce que vous vous êtes assuré que ce bateau, ses occupants ne seront plus dans votre commune, parce qu'on sait que les Pays-Bas traversent aujourd'hui une grave crise du logement?
C'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. Comment pouvez-vous nous assurer qu'au-delà du 1er mars, ce bateau sera parti? Ce que je réponds, c'est que j'ai un contrat officiel et qu'il est signé. Le gouvernement a déclaré publiquement que ce bateau ne serait plus là après le 1er mars 2023. Le directeur de l'agence pour les réfugiés a dit la même chose. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se projeter plus loin et parler de la prise en charge et de l'hébergement de ces réfugiés en situation légale aux Pays-Bas. Ces personnes doivent être réparties à parts égales dans les villes du pays. Parce que le problème, c'est que les communes ne remplissent pas leur rôle et refusent ces réfugiés. Vous avez parfois des personnes qui viennent frapper à la porte des municipalités avec un papier en main et disent « Regardez, je suis en situation légale, j'ai le droit à un logement ». Mais les autorités locales leur répondent « Nous n'avons pas de place pour vous, donc vous ne pouvez pas rester ». C'est exactement ce qu'il s'est passé cet été à Terrapel, avec toutes ces personnes qui avaient obtenu le droit de vivre en toute légalité aux Pays-Bas, mais les villes ne les ont ni reçues, ni même fait l'effort de leur trouver un logement.
Contraindre chaque municipalité à prendre sa part. La coalition du Premier ministre néerlandais s'y est finalement résolue sous la pression. Début novembre, le gouvernement annonçait soutenir un projet de loi dans ce sens. Le texte doit entrer en vigueur début 2023. Il prévoit d'obliger les conseils locaux de chaque ville à héberger tous les demandeurs d'asile. Cela concerne aussi bien ceux dont les demandes ont été acceptées que les autres dans l'attente d'une réponse. Les municipalités pourront même toucher des aides jusqu'à 2500 euros par demandeur d'asile, à condition qu'elles s'engagent dans ce programme pendant une durée d'au moins 5 ans.
Aux Pays-Bas, les migrants restent à quai. Un grand reportage de Nicolas Feldman, réalisation Donatien Cahut.